Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance Française pour Un masque et la plume consacré à l'actualité du cinéma avec Eva Bétan de France Inter, Michel Simon de Positif, Jean-Marc Lalanne des Arts Occuptibles et Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et bien sûr d'une heure en série dont nous sommes tous les auditrices et auditeurs le samedi soir sur Inter à la même heure que le masque, c'est-à-dire à 8h. On parle ce soir des nouveaux films d'Albert Dupontel, Jonathan Nociter, Andrei Konchalovsky, Thomas Vinterberg, Yeon Sang-ho et Noémie Saglio qui n'est pas coréenne, hein, et de la réédition du Sixième Sens, celui de Michael Mann. Parce que si vous attendez la fin de l'émission pour avoir l'autre, eh bien, c'est pas nécessaire. Dans le courrier de la semaine, on revient vite sur Énorme de Sophie Le Tourneur avec Marina Foïs et Jonathan Cohen que le masque avait défendu. Eh bien, Monique Guingold de Palaiseau se dit trompée. Le masque a encensé Énorme. Nous y sommes allés de confiance, persuadés de passer une bonne soirée. Funeste erreur, à force d'être caricatural, le film est ridicule et en prime très ennuyeux. Même constat de Pierre Poitou. À la suite de votre émission, je suis allé voir Énorme. Il y a longtemps que je ne m'étais pas ennuyé comme ça au cinéma. Scénario indigent, acteur inexistant, aucun rythme. Quelle déception pour un retour en salle après des mois d'arrêt. Lucille Rocha de Paris est en revanche de notre avis. Moi aussi, j'ai adoré Énorme, mais il y a quelque chose de Truffaut dans la crudité des relations et la caractérisation des personnages, sans parler des fermetures de cadre que le maître affectionnait. Preuve que le cinéma français n'est pas totalement moribond. Sinon, Sébastien Berthaud nous remercie. Sans votre conseil, je serais passé à côté du film d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit. Délicieux moment tel que le cinéma français seul sait en fabriquer. La mise en scène est délicate, les dialogues intelligents et poétiques, les acteurs impeccables dans ce registre littéraire très exigeant. Merci à vous, tandis que Marine Francillon s'oppose fermement aux auditeurs dont j'ai lu les lettres, effectivement courroucées sur les choses qu'on dit. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre que j'ai même prescrit à certaines amies perdues dans le triangle inextricable de l'amour, du désir et des convenances. Voilà, sinon Jocelyn Méraud confirme certains commentaires d'auditeurs du masque. Oui, Cagillionnaire est un beau film, poétique, sensible, drôle, critique du modèle capitaliste qui gouverne notre monde et qu'il est grand temps de changer. Cagillionnaire, puisque je posais la question la semaine dernière, il y a 15 jours, signifie immensément riche. Tant qu'un système générera des cagillionnaires, il y aura problème. Le seul point positif d'un tel système, c'est qu'il génère également de tels films. Enfin, Fifi Brun s'étonne de la mansuétude dont le masque a fait preuve à l'égard de L'Enfant rêvé de Raphaël Jacoulot. Film mou où tout sonne faux, où le personnage de Jalil Lesper est aussi horripilant que son expression est patibulaire. Quant aux scènes de sexe, elles sont aussi torrides que deux escalopes de poulet se chevauchant sur l'étal d'une boucherie. Voilà. Rien à ajouter au courrier, non les uns les autres. On commence donc avec Adieu les cons. Le septième film comme réalisateur d'Albert Dupontel, après notamment 9 mois ferme. Et Au revoir là-haut, et c'est avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, autrement dit, Suze Trappé, une coiffeuse condamnée par la maladie professionnelle, qui cherche à retrouver l'enfant né sous X qu'elle a eu quand elle était adolescente. JB, informaticien ministériel dépressif, qui perd son travail et qui rate son suicide. Monsieur Blin, un archiviste aveugle qui a la phobie des flics. Et les trois, donc, vont s'unir pour se sortir de la mouise. Il faut ajouter au générique les fidèles de Dupontel, Philippe Huchan, Michel Vuillermoz, Bouly Lanners, Jacques Iberoyer, Laurent Stocker et même brièvement Terry Gilliam, Adieu les cons, donc qui n'est pas totalement toujours Adieu les clichés, mais enfin je vous laisse en parler, Eva.
Ce film-là n'a pas l'acidité qu'avait Bernie. On peut se dire que soit Dupontel vieillit, soit que les succès qu'il a eus l'amènent à vouloir avoir un public plus large, qui n'a rien de déshonorant. Je trouve qu'il reprend tout ce qui fait son cinéma d'une manière plus distrayante, comme s'il disait, voilà, ma mélancolie, mon pessimisme, mon inadaptation au monde, le monde est kafkaïen, je ne sais pas comment on s'en sort. Il met tout ça dans un moule distrayant. Effectivement, c'est posé en large trait, le type dépressif qui rate son suicide, la fille, etc. Et les choses sont posées largement, grossièrement, à large trait. Et ce qui va suivre après, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a des scènes, il a un sens des scènes, il y a des moments très drôles. Arriver à faire une scène d'annonce de la maladie où on annonce à quelqu'un que ça ne va pas aller pour elle, qu'elle soit à la fois drôle, cruelle, il arrive à avoir un décalage de ton dans une même scène qui est formidable, et il arrive à ce que tout ça tienne et à ce que ça la fasse un agrégat qui fait plaisir.
Jean-Marc.
Je serais plus sévère. Moi, je veux dire que j'ai jamais été tellement féru du cinéma de Dupontel, mais ce film-là, je le trouve vraiment particulièrement raté. Je trouve qu'à la fois dans ses procédés comiques, ça renvoie à un cinéma vraiment antédiluvien de blagues sur l'écriture des médecins qui était lisible, sur les aveugles qui trébuche. Enfin, tout ça, c'est vraiment du vieux comique français. On pense presque à un film de d'Harry Cole, disons, avec dessus une sorte de plâtrage formaliste néo-publicitaire années 80, qui, de mon point de vue, est tout aussi ringard. Donc, je trouve que le film est inapte à toucher la moindre forme de vivant. Chaque plan est sous cloche. Il y a vraiment une sorte de plâtrage formel dégoulinant qui, pour moi, rend le film vraiment très, très difficile à regarder et qui, finalement, la noirceur potentielle du film, sa vision, par exemple, des forces sécuritaires, est noyée sous un tel déluge de bons sentiments que je trouve que l'un neutralise l'autre et le film est pour moi totalement inopérant.
Et alors, tu parlais des forces sécuritaires, mais les cons, c'est tout le monde en gros, sauf eux.
Oui, sauf les personnages.
C'est très large. Xavier.
Alors, déjà, je t'en veux, tu n'as pas cité Mylène Farmer quand même.
Oui, c'est vrai.
Merci au générique de fin.
Exactement.
Alors, comme d'habitude, il faut que je revienne à la rescousse de Mylène, voilà, qui a participé. Un peu étrangement au film.
Participé étrangement et brièvement.
Et brièvement, simplement, elle a fait se rencontrer un de ses musiciens et Albert Dupontel, puisqu'elle avait envie de travailler avec ce musicien-là, et que grâce à Mylène, voilà, la partition a été achevée.
Bah, tu viens de perdre quand même deux minutes pour nous parler de Mylène Farmer.
C'est pas grave du tout, parler de Mylène Farmer,
n'est jamais... plus intéressante à dire.
Voilà, jamais du temps perdu. Moi, au contraire de mes petits camarades, moi, j'ai vraiment... passer un très bon moment.
Mais oui, pas moi, vraiment. C'est exactement ce que j'ai dit, tu n'es pas au contraire de moi.
Il y a des clichés, il y a des lourdeurs, il y a ce cynisme, voire peut-être ce nihilisme qu'il a effectivement édulcoré, mais qui fonctionne plutôt encore bien. Moi, je trouve qu'il y a des séquences qui sont pas inintéressantes, la maternité où elle cherche désespérément à trouver des traces comme ça de l'enfant, est devenue un rond-point, donc il y a toute une scène qui se passe sur un rond-point que je trouve à la fois un peu triste, un peu désespérante, et puis en même temps rehaussée par un humour qui est narquois, qui est présent, mais contrairement à toi, Jean-Marc, je le trouve pas plus appuyé que ça. Je trouve que l'équilibre se fait entre effectivement la désespérance des personnages et des situations, et puis des trouvailles graphiques. La scène où Nicolas Marié, un aveugle clairvoyant, faut quand même dire un tout petit peu les choses telles qu'elles sont, va les sauver grâce à un jeu comme ça de tiroirs, ils vont s'ouvrir et vont les sauver des flics. Et je trouve que voilà, c'est un très très bon moment de cinéma.
Oui, il y a des idées.
Voilà, il y a toujours des idées, il y a toujours des trouvailles. Et puis, effectivement, s'il y a eu une comédienne un petit peu plus systématique que Virginie Efira, le film aurait pu chaoter. Mais elle arrive à endosser vraiment toutes les nuances, toutes les ruptures, toutes les complexités du personnage. Et je trouve qu'elle est absolument bouleversante, magnifique, belle, touchante. Et voilà. Et je trouve que cet équilibre entre le comique qu'apporte Nicolas Marié, la tendresse qu'elle confère au film.
Et la présence souterraine de Mylène Farmer.
Et voilà, et le côté un peu revanchard, ranard, adouci
en tout cas,
d'Albert Dupontel.
Je vais réutiliser le verbe chaoter que j'aime bien. Je chaoterai, tu chaoteras.
Mais oui, nous chaoterons tous.
Michel.
Oui, je trouve que d'abord, il creuse son sillon. Il n'a pas été toujours très apprécié par la presse. Il y a eu des articles très méchants sur ce dernier film. Et j'apprécie beaucoup cet humour noir. Enfin, d'ailleurs, il y a un rapport qu'on pourrait...
Une presse dithyrambique et unanime.
On pourrait établir un rapport avec effacer l'historique. C'est-à-dire des metteurs en scène, des artistes qui sont mal à l'aise.
Il y a aussi un rond-point dans effacer l'historique.
Qui sont mal à l'aise dans la société dans laquelle ils vivent et qui veulent s'interroger sur cette société. Alors, moi, j'aime bien ces personnages paumés dans leur solitude. J'aime beaucoup cette caméra exubérante qu'on lui reproche, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui ose. Il appartient à une tendance du cinéma français. Il y a eu Jean-Pierre Jeunet, il y a eu Bertrand Blier, de la fantaisie, de l'humour un peu excessif, etc. Il est hors des normes et je trouve qu'il faut tenir compte maintenant de son œuvre. C'est quelqu'un qui poursuit son analyse un peu de la société d'aujourd'hui. Moi, c'est un film que je défends. Je trouve que Dupontel est vraiment une valeur intéressante dans le cinéma d'aujourd'hui.
On est à 3-1, c'est pas vrai, mal.
Ça peut attirer quand même du public en salle, et au moment où la plupart des films, disons à gros budget, se retirent les uns après les autres des écrans. Voilà.
Et les gens ne seront pas déçus. Bons, hein,
très favorables à un succès potentiel.
Mais pas comme, ouais. comme par hasard. Est-ce qu'il y a des réactions ici au Théâtre de l'Alliance Française sur ce film d'Albert Dupontel? Non. Twink, du Danois Thomas Vinterberg, vous savez, l'ex-fondateur du Lointain. Dogme 95, ça ne nous rajeunit pas, hein, le Dogme 95. Et réalisateur de Festen avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Rante et d'autres. Le point de départ, quatre amis, enseignants au lycée, mais pour être critique au masque et la plume, décident de mettre en pratique la théorie du psychiatre norvégien Finn Skarderud, qui existe vraiment, hein, selon laquelle l'homme aurait, dès la naissance, un déficit d'alcool dans le sang, de l'ordre de 0,5. Ils vont donc carburer à la bière, au vin, à la vodka, pour mesurer le bien fondé de cette hypothèse et, croient-ils, améliorer leur vie. Alors au début, ça fonctionne, c'est drôle. Et là, l'abus d'alcool est dangereux pour le moral et nos joyeux drilles vont vite sombrer dans des crises diverses et variées, voire des dépressions suicidaires, je n'en dis pas plus. Et finalement, le film m'a paru plus proche de Søren Kierkegaard que de Johnny Walker. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'il faut le lire. Donc, Drunk de Vinterberg. Michel.
Alors, Vinterberg, c'est un personnage très curieux parce qu'il a été découvert avec Festen. Il y a eu un Grand Prix à Cannes, un film collectif, qui d'ailleurs lui réussit très bien, parce que celui-ci est également un film collectif. Il avait réalisé récemment un autre film qui s'appelait La Communauté, qui était également réussi. Il a fait des films très médiocres, c'est quelqu'un de très inégal, mais j'ai trouvé ce film extrêmement passionnant. On l'a rapproché de Cassavetes, et c'est pas faux, de Husbands, c'est ces personnages des garçons qui sont en vadrouille et qui font des tas de choses extravagantes, etc. Donc je trouve qu'il a un sens vraiment du travail de groupe qui est très réussi. Il y a aussi cette phrase de Kierkegaard, « Oser, c'est perdre pied momentanément, ne pas oser, c'est se perdre soi-même », qu'il applique à ce film de façon brillante. Donc je trouve que c'est un film vraiment réussi, parce qu'on ne sait jamais avec lui ce qu'on
peut... Que le début est mieux que la fin, non?
Oui.
Le début, je trouvais très prometteur, et puis à mesure que ça avance...
Mais moi, j'ai vraiment marché au film. Je trouve qu'il y a une qualité d'interprétation... Et je pense que si on aime Cassavetes, par exemple, on peut faire les mêmes reproches à Cassavetes, c'est-à-dire une répétition des choses. Alors c'est un peu éthylique, évidemment.
Ah, ça ne t'a pas échappé, je vois.
Peut-être, il était lui-même en état éthylique quand il a fait le film, mais en tout cas, c'est une belle réussite.
Xavier,
on savait longtemps que j'avais pas été aussi intéressé par un film de Vinterberg. Il n'est pas sans défaut.
La loin communauté, sans... c'était bien, c'était
oh
pas
non,
mal.
Oh non, oh, j'avais trouvé ça d'une lourdeur, j'ai trouvé ouais, ça appuyé, surligné. Oh là là, mon Dieu. Il ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu moralisateur, quand même, Vinterberg, mais ça depuis le début, de toute façon. Festen, il faut le revoir, ça a terriblement mal vieilli. Hein. Ouais. Oh là là, mon Dieu. Alors, je suis comme toi, je trouve que les trois premiers quarts d'heure sont absolument formidables. Et il y a une scène, moi, qui m'intéresse tout particulièrement, qui est celle de ce repas où trois copains essayent de convaincre le quatrième de boire. Et ne buvant pas, je me suis retrouvé dans un nombre incalculable de situations où, effectivement, quand je dis « je bois pas » avec un grand sourire...
Officiellement, tu ne bois pas.
Officiellement, je ne bois pas, bien sûr. Mais quand tu dis aux gens « je ne bois pas », ils te regardent écarquillés, c'est, il te manque un bras, il te manque un pied, il te manque une béquille, tu ne peux pas vivre sans boire. Et cette manière...
On te plaint même dans ce cas-là.
On te plaint, on est d'une condescendance sans nom. Vraiment, c'est comme chez les religieux, quand tu dis que tu es athée, c'est « oh mon Dieu, mais ça ne peut pas exister dans la vraie vie ». Et je trouve que cette scène où ils arrivent à le convaincre, c'est-à-dire le côté social de boire, comment boire te place dans la société, te place dans un cercle d'amis, te place comme ça dans un certain monde et on te force à y aller. Obligatoirement, tu n'as pas bu le bon alcool, obligatoirement, tu n'as pas rencontré l'alcool qui t'allait. Et c'est, je trouve cette scène d'une violence très sourde. Il se passe rien, c'est juste un repas comme ça. Et la manière dont la caméra tourne autour des personnages avec ces trois qui essaient de le convaincre de boire et il va finir par y céder, je la trouve extrêmement juste. Après, le film se délite, et ils vont tous boire, ils vont tous péter les plombs, lui il va devenir un meilleur prof. Bon, on peut douter du fait qu'effectivement, être bourré pendant les cours fasse de toi un meilleur professeur, mais bon, il sait pas très très bien quoi faire de son sujet. Au bout d'un moment, je trouve que dans l'écriture, il le décline avec quatre personnages, les épouses évidemment qui vont en prendre plein la gueule. Bon, voilà, on sait pas très bien où est-ce qu'il se situe, je vois même très bien ce qu'il veut dire, à part une chose, C'est Sophie Avon, que tu reçois régulièrement, qui m'a dit, quand même, je trouve le film, et elle avait raison, très fort sur la manière dont il dit qu'un pays ne repose uniquement sur ce côté très, très hypocrite de l'alcool. En fait, on a l'impression qu'ils boivent tous pour oublier la réalité de la société de leur pays, la réalité des métiers qu'ils font. Et je trouve qu'elle avait tout à fait raison. C'est-à-dire que le vrai sujet du film, c'est ça.
Oui, mais on va pas rentrer, on n'est pas au téléphone sonne dans un débat sur l'alcool.
Mais
on va essentiellement se concentrer sur la critique de cinéma.
C'est greffé sur un scénario qui prend l'eau.
Oui, moi je suis assez d'accord avec l'idée que le film se délite. Au début, il m'intéresse assez parce que j'ai l'impression que son sujet n'est pas l'alcool, mais plutôt la violence qu'exerce la société, l'expérience sociale ordinaire, la difficulté à continuer à assurer son activité professionnelle face à des espèces de montées d'angoisse qui sont générées par l'ensemble de la société. C'est vraiment un film très critique sur le Danemark, qui est vraiment montré comme une société à la fois oppressive et extrêmement polie, une oppression très très douce, et ces personnages qui tout à coup sont mis en échec et ne parviennent pas à maintenir leur activité sociale, découvrent cette espèce de liquide qui font d'eux des super-héros, qui est l'alcool. Mais le film à ce moment-là n'est pas vraiment sur l'alcoolisme, parce que l'alcoolisme c'est pas ça, et c'est plutôt sur l'anxiété générée par le monde contemporain, et là-dessus je trouve que le film est assez intriguant. Mais à partir du moment où il veut vraiment filmer ce que c'est que une crise éthylique, à mon avis, pour le coup, là, je suis pas du tout d'accord avec Michel, c'est vraiment pas Cassavetes. C'est-à-dire que je trouvais que Cassavetes, dans Husband, exemplairement, il réussit à ce que le cinéma, la mise en scène, soit totalement affectée par les effets de l'alcool. C'est-à-dire qu'il y avait une distorsion du temps, une modification de toutes les perceptions qui faisait qu'en voyant le film, on avait le sentiment de s'identifier totalement au personnage et d'éprouver dans sa chair ce que c'est que l'expérience alcoolique par la puissance de suggestion de la mise en scène. Là, les scènes vraiment où ils sont bourrés, c'est des petites vignettes rigolotes extrêmement superficielles, très découpées, c'est-à-dire qu'ils ne filment pas du tout la modification de perception temporelle liée à l'alcool. Et je pense que plus le film avance, plus il se perd, plus il perd son sujet, plus il est superficiel, et au final je le trouve assez insatisfaisant.
Eva.
Alors heureusement ce n'est pas Le cœur des hommes dans la série Hommes entre eux, et c'est pas La grande bouffe non plus, parce que les excès vont avec une époque terne. Le bonheur à la danoise a l'air d'un ennui mortel, et ils prennent de l'alcool non pas comme une provocation à la société comme La grande bouffe, mais ils la prennent juste pour pouvoir supporter la société. C'est comme certains prennent un quart de Lexomil ou une ligne de coke s'ils sont traders. Ils prennent de l'alcool pour s'intégrer. Donc le potentiel, il y a un potentiel un peu comique du film qui est on dose l'alcool, 0,5 g exactement, on passe à un peu plus, etc. Et à l'arrivée, l'effet de l'alcool est finalement assez conformiste. Si tu en prends trop, on va le payer cher. Moi, ce que je trouve beaucoup plus intéressant dans le film, c'est justement la déprime d'une société et la déprime d'une génération. Ils ont été moins conformistes que leurs élèves. La scène que je trouve formidable, c'est en classe, quand ils disent, voilà, vous devriez choisir quelqu'un qui ne boit pas, qui aime les chiens, ou bien quelqu'un qui est alcoolique et tout. Ben, il leur dit, après, les gens prennent le type qui ne boit pas, qui aime les chiens. Vous auriez pris Hitler au lieu de Churchill. Donc, il est en train de leur expliquer qu'on ne peut pas juger que sur de la bien-pensance. Et c'est ça que je trouve bien. C'est ça plus que l'histoire de l'alcool que je trouve un peu limité, ça est une sorte de mélancolie et en même temps une envie de paix qu'il y a dans ce film, une sorte de compassion. Et c'est ça que je trouve beau.
Drunks de Thomas Vinterberg. Last Words, le film d'anticipation de Jonathan Nociter, le cinéaste de Mondovino, qui était présenté en septembre au Festival américain de Deauville, un film adapté du roman Mes derniers mots chez POL de Santiago Amigorena, lequel Amigorena co-signe le scénario avec, je parle du film, pas du scénario, avec Nick Nolte, Khalifa Touré, Charlotte Rampling. On se demande un peu ce qu'elle fait là quand même. Un film où notre humanité est décimée en 86 par un virus respiratoire et où le monde n'est plus qu'un immense désert. Le héros, qui est un jeune Africain sans nom, tombe sur des pellicules de la Cinecittà de Bologne dans les ruines de Paris et part pour l'Italie afin de comprendre l'origine de ces bouts de film avec un vieux cinéaste qui s'appelle Shakespeare et qui est joué par Nick Nolte. Ils vont donc échouer à Athènes où les derniers survivants cultivent ce qui reste de terre et c'est, tenez-vous bien, la projection des films du monde d'avant qui va leur redonner espoir. Faudra-t-il que l'homme meure, écrit dans son livre Amigo Reyna, pour qu'il mesure la grandeur de ce qu'il a été? Last word, Xavier, qu'en as-tu pensé?
Ah ben, c'est un film idéal pour le couvre-feu. Il faut y aller à 18h, 18h30, rester trois quarts d'heure, se faire accompagner à la sortie, parce que les trois premiers quarts d'heure sont plutôt intrigants et pas inintéressants. Et surtout, éviter de voir la fin, qui est une catastrophe atomique, hein, nucléaire, pandémique, je ne sais pas comment le dire. Mais moi, j'aime bien le début. J'aime bien le début parce que d'abord, il y a effectivement ce héros et sa sœur. C'est la dernière femme à être enceinte. C'est un paradigme de science-fiction apocalyptique. La dernière femme enceinte, la fin de l'humanité. Généralement, on fait tout pour la sauver. Bon, là, on passe à autre chose très rapidement. Donc déjà, il tord le cou à cette espèce de cliché comme ça que l'on retrouve sempiternellement dans la moitié des films apocalyptiques. Et on se retrouve dans un no man's land avec ce vieux monsieur, Nick Nolte, qui va lui apprendre à faire du cinéma, mais à faire de la pellicule. Et moi, je suis désolé, ça m'a un peu ému. J'ai peut-être du cœur, assez irrégulièrement, mais voilà. Les deux en train de faire du cellulo, de la vieille pellicule, de l'avant le DCP, de l'avant Internet et tout ça. Cette matière vivante et en même temps inerte qui était le cinéma avant les techniques d'aujourd'hui. Les deux, j'ai trouvé ça beau. Et puis après, malheureusement, donc c'est là où il faut espérer que le couvre-feu soit avancé et puis que vous soyez comme ça poussé vers la sortie, il y a une fin. Enfin, il y a une deuxième partie.
Qui... Non, mais comme tu vas pas la raconter. Que... Manières,
oh, bah si.
Non.
Le jardin d'Éden poste. Oh, mais attends, il faut épargner les gens. C'est pas possible, quand même. Avec Albar Horvarer, là, qui bouge des bras et qui dit. Non, mais c'est au secours. Et la pauvre Charlotte Rampling qui se demande, mais vraiment, ce qu'elle fait là.
Qu'est-ce qu'elle fait dans ce film?
Ah, mais je ne sais pas. Elle a été piégée. Peut-être qu'elle avait signé pour Drunk, qu'elle a bu et que finalement, elle s'est retrouvée dans le film de l'Occitaire. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a été kidnappée. Peut-être qu'il a des dossiers sur elle. Mais c'est pas possible. Libérer et Charlotte Rampling, c'est d'un ridicule, mais pas tenté, c'est inepte. Il y a des tonnes de dialogues qui sont sentencieux. Ça se termine effectivement, comme tu l'as dit, sur le champ contre champ entre des films d'Harold Lloyd et eux qui font semblant de rire. Et ça ne fonctionne absolument pas. C'est de la mise en scène de papy. Ça n'a aucun intérêt. Je crois que le film avait été...
Sans compter que ça n'est pas du tout angoissant, puisque c'est aussi, ça devrait l'être. Puisque...
Ah bah ça n'est pas du tout... Enfin, si, ce qui est angoissant, c'est que ça dure 2 heures. Quand même.
Ouais, allez, on va aller vite, parce qu'il y a d'autres films, non, Michel.
Non, c'est une catastrophe. Alors, c'est vrai que Nocitaire, après Mondovino, il a fait encore des films assez médiocres, alors que Mondovino était un très bon film. Il est devenu viticulteur en Italie. Alors, je ne sais pas combien il y a de grammes d'alcool dans son sang, mais visiblement, il a fait ce film en état d'ébriété. Et je crois que d'ailleurs, Santiago Amigorena n'y est pour rien. C'est adapté d'un de ses livres. Je ne peux pas croire une seconde que ce soit fidèle au livre. En tout cas, le film, il a un casting, évidemment. Il a embarqué avec lui la pauvre Charlotte Rampling, Nick Nolte, enfin, d'immenses acteurs qui jouent des scènes pitoyable, embarrassante même. Je trouve ce film hallucinant de clichés, le monde désert. Alors, on voit que l'épidémie inspire très mal les récents metteurs en scène. Il y a eu de très bons films sur les épidémies, mais actuellement, ceux qui sortent et qui traitent de l'épidémie sont catastrophiques. On en parlera bientôt d'un autre. Mais celui-ci est absolument hallucinant de ratage. J'ai rarement vu un film raté.
Mais c'est un modèle, et moi, je suis un peu comme toi, contrairement à Xavier, c'est dès le début, moi.
Cliché, j'ai pas attendu. Laborieux, prétentieux, montrer des films, et puis des vieux films qui vont réconcilier l'homme avec sa destinée, enfin tout ça.
Comme si le cinéma
est insupportable.
Eva.
Je suis moins dur que vous. Oui, je ne dis pas que c'est un film réussi, il y a beaucoup de choses ratées,
lourdes. Il y a du cœur, toi, c'est ça la différence.
J'ai bon cœur, enfin, ça me perdra, tu veux que je te dise. Mais je trouve que, déjà, moi, l'idée, simplement, le jeune Africain qui dit face caméra, je suis le dernier homme sur Terre, cette idée me terrifie plus qu'une armée de zombies. L'idée qu'il n'y a plus personne et qu'on est tout seul, juste avec deux mots, je trouve que c'est une idée formidable parce qu'elle est terrifiante avec rien. Et puis, je suis de l'avis Xavier, ce qui a trait au cinéma, à la pellicule, tout ça, je trouve qu'il y a quelque chose que je trouve beau. Et l'idée, pas la réalisation de cette idée, parce que la fin, quand ils sont tous ensemble, il y a beaucoup de lourdeur, effectivement. Mais l'idée que les derniers hommes sur Terre savent qu'il n'y en aura pas d'autres et qu'il y a une forme de douceur entre eux. Jamais l'idée d'une fin du monde, d'une apocalypse, l'apocalypse ou les films post-apocalyptiques sont tous dans l'horreur. Je ne dis pas que ça fait un film, je dis qu'est-ce qu'il y a à sauver dans un film. Voilà, oui. Je ne suis pas en train de dire que ça fait un film, je dis qu'il y a des choses à sauver.
Jean-Marc.
Je ne l'ai pas vu.
Mais tu vas y aller.
Ah oui, vous m'avez vraiment donné envie.
Last words de Jonathan Nociter, Michel-Ange, film italien du russe Andrei Konchalovsky, avec Alberto Testone dans le rôle du peintre de la chapelle Sixtine et dont le titre original, je parle du film, est Le Péché, un Michel-Ange barbu aux mains très noires, hein, aux ongles cassés, mais soucieux, dans l'Italie du XVIe, de trouver le marbre de Carrare le plus pur pour la tombe du pape Jules II, un artiste en fureur qui juge que sa famille est trop dépensière. Elle est dans le péché, et tout ça sur fond de querelle entre les deux grandes familles qui mécènent Michel-Ange, les Médicis et les Della Rovere. Détail quand même important, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on ne voit jamais Michel-Ange travailler. Ce n'est pas un biopic, a expliqué Konchalovsky lors de la projection du film au Festival de cinéma de Rome. Michel-Ange avait un caractère terrible, aimait l'argent, était pingre, faisait les choses un peu à l'italienne, il était donc profondément humain. Je veux qu'on sorte du film en se disant qu'on connaît cet homme. Un film, j'oubliais quand même, de 2h16, dont je dois avouer qu'il se mérite, quoi. Il faut accepter l'idée de passer 2h16 avant le couvre-feu avec Michel-Ange Jean-Marc.
Oui, mais je pense que la durée n'est pas un souci, qu'elle fait vraiment partie de l'expérience du film.
Non, on a le droit de plus rien dire maintenant, si on fait des petites...
on a le droit de pas être d'accord. Non, moi, effectivement, 2h16, ça peut paraître long, d'autant plus que le film est assez lent, mais c'est vraiment un film dans lequel on s'enfonce et où on se sent de mieux en mieux, et il y a une... je trouve quand même qu'il y a une puissance de cinéma. Moi, Konchalovsky, c'est pas un cinéaste que je connais extrêmement bien, et j'ai quand même été saisi par sa puissance plastique. Je trouve qu'il arrive vraiment à ressusciter un monde, c'est-à-dire qu'il y a un effet de présent assez fort sur cette Italie du début du VIe siècle. Je trouve que le casting, au-delà des acteurs, les corps sont vraiment extrêmement bien choisis. On a vraiment le sentiment d'entrer dans l'univers sensible qui a donné les grandes œuvres de la Renaissance. Tous les corps sont vraiment remarquablement puissants, forts. On a l'impression d'être devant la Chapelle Sixtine. Et je trouve que Konchalovsky est très très fort aussi pour filmer la matière, la lumière, la matière. Il y a quelque chose vraiment qui est purement du cinéma. Je trouve que les blocs de marbre blanc qui sont quasiment comme le monolithe noir de Kubrick, il y a une
pour
puissance
filmer aussi la crasse,
expressive.
Pour filmer la saleté aussi, hein, parce que...
Oui. Complètement là, la
crasse aussi de cette époque,
et aussi une vision de l'artiste à la fois comme un démiurge et comme un valet, comme quelqu'un qui est toujours en train de négocier des choses pas très ragoûtantes avec les puissants et qui en même temps se prend quasiment pour Dieu et qui vit dans cette tension là qui le mène à la bordure de la folie. Je trouve le film assez fort.
Eva,
le véritable héros du film, c'est le bloc de pierre, le monstre qu'il appelle il monstro. Enfin, c'est un moment crucial dans le film, parce que nous, en tant que spectateurs, on sait que c'est un grand artiste et on s'attend quasiment à ce que ce soit une sorte de film de science-fiction, à ce qu'il lui donne vie à ce bloc de pierre. On voit comment il construit des poulies pour le déplacer. Il y a un côté extrêmement physique qui est vraiment palpable et que je trouve vraiment très intéressant. Il y a la saleté, il y a les rues où les gens jettent par la fenêtre, il y a le décalage entre l'obscurité des maisons et la blancheur du marbre. Il y a une vision qui est finalement très antipathique de Michel-Ange. Il est radin, il trahit tout le monde, il insulte ses confrères, etc. Mais l'agrégat entre en fait, c'est à côté de la création. Et tant mieux, parce que essayer, ça aurait été ridicule de nous montrer Michel-Ange en train de sculpter. Il y a un agrégat qui se fait d'une manière pas évidente entre ces vignettes, en quelque sorte, de ce que c'était que la vie d'époque et d'un artiste qui est obligé de négocier pour l'argent, pour tout, et cette sorte de tentation du chef-d'œuvre en voyant le bloc de pierre.
Michel.
Oui, je pense que c'est un très grand film. Pourquoi ? Parce que d'abord, Konchalovsky, à mon avis, fait une métaphore avec Michel-Ange sur la situation de l'artiste dans un régime d'oppression, d'un régime d'absence de liberté. Michel-Ange, vis-à-vis des papes, est exactement dans la même situation qu'un artiste russe avec le KGB, mais si, la censure, l'Inquisition. Il était victime de l'Inquisition, on ne voulait pas qu'il montre tel nu, etc. Donc, comment peut-on créer dans un régime autoritaire? On arrive à créer malgré tout. Donc c'est une sorte de profession de foi. C'est une réflexion sur le rapport de l'artiste et du pouvoir. Deuxièmement, je pense que c'est aussi une approche de la Renaissance, qui est encore le Moyen-Âge, une approche très réaliste qui ressemble à des Rossellini, des Pasolini, des Olmi, à toute la tradition italienne qui est de montrer le passé comme s'il était présent. Et ça, c'est très réussi aussi. Et je pense que ce film, on dit on ne le voit pas peindre.
Mais, ah non.
Mais bien sûr, on ne le voit pas peindre. Mais Van Gogh de Piala, on ne le voit pas peindre.
Mais c'est pas un reproche.
C'est pas un reproche, au contraire.
Mais André Roubloff...
Mon seul reproche, c'est sur la longueur.
Il a écrit André Roubloff avec Tarkovsky. Il est le scénariste d'André Roubloff. Dans André Roubloff, réalisé il y a 50 ans, on ne le voyait pas peindre non plus. Donc ça ne l'intéresse pas. C'est les mauvais films sur les peintres. C'est les mauvais films sur les peintres où on voit le peintre devant la mer et on voit qu'il peint la mer. Ça n'a aucun intérêt.
Xavier.
Je suis entièrement d'accord, je vais faire vite parce que mes petits camarades ont été tout à fait brillants sur ce film que j'aime énormément. C'est un film de contraste, Eva l'a très très bien dit, entre les ors du Vatican et en même temps la noirceur des rues dont il faut traverser, la blancheur de ce bloc de marbre. Et ce que j'aime beaucoup dans la mise en scène pure de Konchalovsky, c'est ce rapport constant entre des très gros plans sur des mains calleuses, des mains abîmées. On ne le voit pas au travail, mais on voit le résultat du travail sur ses mains, et ça c'est très beau. C'est un rapport très organique, très minéral, comme l'a souligné Jean-Marc à juste titre. J'ai pas besoin de voir autre chose, c'est quelqu'un qui effectivement a les mains, j'allais dire, dans le cambouis de ce travail-là, et en même temps, subitement, avec un effet de montage qui est assez saisissant, on a immédiatement des plaines immenses, quelque chose de sacré, quelque chose de trivial, quelque chose de la grâce du ciel, quelque part, qui prouve qu'il y a chez Michel-Ange quelque chose qui nous échappe à tous, qui est le génie peut-être, qui est la grâce divine, mais dans lequel il se plonge autant que dans le travail, et ce rapport de contraste comme ça, qui n'est porté que par l'image, je trouve, dit énormément de choses sur ce talent extraordinaire. Michel l'a dit, il y a la politique, mais aussi l'inspiration. Il y a effectivement un type qui est touché par une grâce divine peut-être, je ne sais pas, mais que Konchalovsky filme vraiment à travers des choses prosaïques et concrètes, et je trouve ça très beau.
Michel-Ange de Konchalovsky, est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Non.
Oui, il y a un monsieur là.
Bonsoir, oui, bonsoir. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Je voudrais simplement faire une petite nuance. Je crois que la vie privée des artistes n'a pas forcément grand intérêt, sauf quand on a un rapport avec leur création, ce qui me semble être le cas de Michel-Ange. Et je suis surpris de la pudeur avec laquelle ce film, et c'est une litote, a abordé le sujet. Peut-être le fait qu'il ait été financé par le ministère russe de la Culture n'est-il pas complètement étranger à cette situation.
Est-ce qu'il n'est pas cofinancé d'ailleurs par les Italiens aussi, je crois?
Oui.
C'est une coproduction, hein, c'est ça, par la RAI aussi. Est-ce que vous voulez répondre ou...
On le voit manipuler, c'est mignon quand même, les garçons qui sont là autour de lui, qui essayent d'être le premier assistant, de s'approcher de lui. Il les vire pour mieux les rattraper. Il y a un phénomène de séduction artistique qui existe là. Moi, j'ai pas besoin qu'il se foute à poil pour comprendre effectivement les relations de force et d'érotisme qui sont là.
Vous avez la réponse. Merci en tout cas de votre intervention. Pas d'autres réactions sur ce film. Il était présenté encore à Deauville, mais dans la section cannoise, puisque maintenant Deauville a sa section cannoise. Et c'est Peninsula, le film d'horreur du sud-coréen Sang-ho Eon, qui fait suite, 4 ans plus tard, au fameux dernier train pour Busan. Cette fois, un soldat qui a réussi à s'échapper de la péninsule de Corée, désormais totalement infesté de zombies, doit retourner à Séoul pour récupérer un camion rempli de dollars et découvrir que des personnes non infectées, livrées à elles-mêmes, ont survécu. On hésite entre le cinéma de genre et le jeu vidéo. Alors là, c'est presque court hein, par rapport à Michel-Ange, c'est 2h02. Et étrangement, j'ai aussi beaucoup ennuyé, si j'ai le droit de dire. Voilà. Xavier, tu l'as vu?
Oui, bien sûr. Un grand fan du dernier train pour Busan, tu penses bien que je n'allais pas louper ce qu'on nous a promis comme étant une suite et qui n'en est pas une, et c'est peut-être aussi bien. La seule chose, c'est qu'en 4 ans, moi j'avais eu le temps d'espérer quand même ce grand retour des zombies en Corée.
Tout le monde.
Adorer le dernier train pour Poussin, que je trouvais méchant, politique, fielleux, narquois, sardonique, enfin bref, tout ce qu'on aime, plein d'idées inventives. Je me souviens d'un des derniers plans avec tous les zombies qui arrivaient à faire basculer un train comme ça. Et là, je me retrouve devant un jeu vidéo brillant, très carpenterien. On ne peut pas ne pas penser à la plupart des films de John Carpenter, et c'est plutôt un compliment dans ma bouche comme Invasion Los Angeles, mais dont tout ce que j'avais aimé dans le premier, enfin dans le dernier épisode, a un peu disparu. C'est prudent, c'est très efficace, c'est toujours dans la surenchère avec ce côté très jubilatoire de plus. Mais j'ai l'impression que le scénario, il manipule de manière très artificielle les poursuites en voiture, dans les rues, perdues, les jeux de cirque où on va se bastonner. Et au bout du compte, le film ne progresse pas, il reste comme ça sur une espèce de boursouflure assez élégante, pas désagréable à regarder, mais que je trouve un peu vide.
Donc toi, tu ne t'es pas ennuyé, toi?
Je me suis pas ennuyé, mais si au bout d'un moment, le problème, c'est que c'est un effet de surenchère qui fait que c'est toujours assez rigolo à regarder, mais qui, moi, ne m'a pas nourri, ne m'a pas satisfait.
Eva?
Alors, je dois préciser une chose, je suis comme le héros de Last Word qui découvre le cinéma. Moi, je découvre les films de zombies. Je n'en ai, je crois, jamais vu de ma vie. J'ai toujours détesté.
Cette année.
Non, mais je t'assure, je connais rien aux films de zombies. Je n'ai même pas vu le dernier train pour Busan, donc je dis la vérité. Attends, pourquoi veux-tu que je mente? Je dis la vérité. Donc je découvre quoi?
Parce que tu as peur d'avoir peur?
Non, c'est parce que ça m'a jamais intéressé. D'accord. Donc,
ton rapport.
Mais non, alors, apportez le divan, nous allons en parler. Donc moi, ce que je vois là-dedans, je vois que l'idée effrayante, c'est que les humains sont devenus minoritaires, les zombies ont dominé, donc on est dans un film catastrophe avant d'être dans un film de genre zombie.
Bien que tu l'aies compris, ça.
Non, mais c'est bien parce que cette idée, elle est effrayante, l'idée que les humains, ils sont minoritaires, qu'après une pandémie, tout le monde s'en fiche d'eux, que personne vient les chercher. Ça, c'est une idée vraiment terrifiante. Il y a une énergie de cinéma, il y a une sorte de noirceur profonde qui va au-delà de l'exercice de style. Il y a des moments jeux vidéo et des moments où on se fiche de l'histoire, en fait. On la prend bout par bout. L'histoire, c'est d'une banalité absolue. C'est des méchants qui viennent chercher un camion d'argent qui est resté dans cet endroit infesté. Donc, c'est pas ça l'important. Mais je trouve qu'il y a un rapport à ce que c'est que un monde entier qui est contaminé, à ce que c'est que la perte, que le zombie, il fait plus peur que la mort. C'est la perte de tout ce qui peut faire l'humanité d'un être humain. Donc voilà, avec mon œil tout neuf, comme l'enfant qui vient de naître au film de zombies, c'est ces choses-là qui m'ont intéressée.
Mais en fait, tu remarques le retour quand même très fort du zombie dans le cinéma.
Oui, universel, d'ailleurs. Mais j'ai réussi à échapper jusque-là, c'est pas mal quand même.
Michel.
Mais moi, c'est le contraire d'Eva. J'ai vu un premier film d'animation qu'il a fait où il y avait des zombies, qui était très réussi. J'ai vu Le Dernier Train pour Busan avait encore des zombies qui étaient réussis. Et là, j'ai vu le Jamais 203, il n'aurait jamais dû faire le troisième, parce que c'est l'exploitation purement et simplement de certains nombres de recettes. Et je suis stupéfait, honnêtement stupéfait, des articles dithyrambiques que j'ai lus dans la presse. C'est 2 heures de... dithyrambiques, je ne veux pas citer les noms, mais tout le monde les reconnaîtra. c'est du gore... C'est des scènes de gore permanentes, de massacres, de ralentis, une musique absolument sirupeuse, un happy end interminable. Enfin, c'est tous les clichés de ce cinéma de série Z. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce cinéma, il y a 40 ans, était méprisé à tort. Il y avait des films de Romero et des films de Mario Bava, etc., qui étaient très mal reçus par la critique sérieuse. Et aujourd'hui, c'est tout juste si ce genre de film n'est pas au-dessus de tout. Ça me paraît absolument terrible. Et je crois que c'est lié à un phénomène. C'est que le cinéma coréen est un des plus grands cinémas au monde. Et que du coup... Un peu comme à l'époque de la Nouvelle Vague, où il y avait Truffaut, Chabrol, etc. Puis il y avait aussi des gens sans intérêt. Tout le monde faisait partie de la Nouvelle Vague. Aujourd'hui, on le met au même titre que Lee Jong-dong, que Bong Joon-ho, qui sont d'extraordinaires metteurs en scène. Et on a ici un metteur en scène vraiment qui est un laborieux utilisateur de recettes.
Jean-Marc.
Oui, je pense aussi qu'il n'est pas au niveau de Bong Joon-ho, que par exemple The Host, sur le thème de la catastrophe et de la famille comme cellule, dernière cellule qui résiste à une catastrophe généralisée, c'était beaucoup plus fort. Mais quand même, moi, j'ai pris énormément de plaisir à voir le film. Je trouve à nouveau que les deux heures, on les voit.
Ah oui,
moi, j'ai pris un très très grand plaisir. Et je trouve que le film, pour plusieurs raisons, tombe vraiment parfaitement, vraiment à pic. À la fois, évidemment, pour des raisons évidentes, parce qu'il donne des visions de ce que c'est qu'une population en proie à une épidémie, qu'il y a beaucoup de choses où on projette quand même quelque chose qu'on vit collectivement de très traumatisant et qui est comme purgé par le film. Et par ailleurs, étant donné que le cinéma américain a totalement déserté les salles depuis plusieurs mois, ou quasiment totalement, moi je vivais vraiment une sorte de manque de cinéma d'action, de cinéma de poursuite, de ce cinéma qui fait partie pour moi quand même du fondement du plaisir qu'il y a à voir un film. Et tout à coup, je trouve que ce film nous redonne accès à ça, et d'une manière, là je suis vraiment pas d'accord avec toi Michel, que je trouve extrêmement brillante. Je trouve le film extrêmement bien fait, extrêmement bien construit, et je rejoins complètement ce que tu disais sur le fait que le sujet du film, c'est vraiment ce qui fait l'humain. Oui. Évidemment, le zombie est une sorte d'humain déclassé, mais le film met en scène plusieurs communautés qui mettent en échec cette notion d'humanisme, d'être humain. Il y a aussi une escouade de mercenaires qui sont de purs barbares. Et ce que montre le film, c'est que être un humain, en fait, c'est un trajet, c'est un combat quotidien. C'est-à-dire qu'au début, le héros commet un acte pour la sécurité de sa famille qui est en fait un acte égoïste, mais il va faire l'apprentissage de l'altruisme, de faire passer l'intérêt commun avant son propre intérêt. Et je trouve que le film est assez puissant sur cette question-là,
c'est
la fragilité d'être un être humain.
Péninsula de Sang-ho Eun. Très rapidement, parents d'élèves de Noémie Saglio, à qui on doit Connasse, avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana. Il y a de plus en plus de films avec Camélia Jordana, vous avez remarqué. Samir Ghesmi et le petit Oscar Polo et Dedienne. C'est un babysitter limite infantile qui, après le mensonge de Bart, donc le garçon de CM1 dont il est à la charge, se transforme en papa, en parent d'élève, et tombe amoureux de l'institutrice qui est jouée par Camélia Jordana. Alors déjà, en soi, les réunions parents-prof, les sorties d'école, la kermesse de fin d'année, c'est pas folichon, mais alors là, faire un film là-dessus, ça me dépasse un peu. Eva ?
Alors, il y avait deux idées qui pouvaient être intéressantes, qui étaient l'idée du transfuge. Lui n'est pas vraiment un père, mais comme il le fait passer pour père, il vient regarder cette sorte de tribu qui est les parents d'élèves. Il y avait une deuxième idée qui est le père de substitution qu'on trouve dans plein de films, avec Kitano, dans Un monde parfait de Clint Eastwood, comment un homme et un enfant qui ne se connaissent pas vont faire un bout de chemin ensemble. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est une volonté de faire un film gentillet sur l'école, où rien ne ressort, les parents d'élèves ont tous une caractéristique, le râleur, la machin, la mère est cervelée, etc. Même les enfants semblent des archétypes d'enfants, des dessins d'enfants. Il y a le mauvais côté. Tu m'as dit, je suis une bonne fille, je suis gentille, tu vois, j'ai bon cœur. Mais la gentillesse, il faut savoir la doser. Et ça, ce c'est côté bon de vouloir faire un film gentil familial donne un film où il n'y a rien dedans.
Xavier ?
Que les enfants n'aient aucune épaisseur, c'est dès le départ, puisqu'elle nous refait le coup des 101 Dalmatiens, où chaque enfant ressemble à son parent. Quand Pongo draguait pour son maître et cherchait.
J'avais pas pensé à ça, c'est une
bonne complètement les 101 Dalmatiens, qui est une scène absolument formidable, où le chien s'ennuie, regarde, et à chaque fois, la maîtresse ressemble terriblement à son chien, le chien ressemble terriblement à sa maîtresse, et on a un quart d'heure pratiquement de présentation. Donc on se dit déjà, il n'y a pas eu de travail sur les personnages. Il y a effectivement celui de Camilla Jordana et Vincent de Dienne qui font ce qu'ils peuvent pour avoir du charme, de la douceur, de la rondeur, un petit côté insolent, incisif et tout ça. Mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de mise en scène, ils n'ont pas de scénario, ils n'ont pas de situation. Ils ont des quiproquos qui se délitent alors même qu'ils viennent d'exister. Bon, ben voilà, c'est un film pour un dimanche soir pluvieux avec une télé qui est tombée en panne et il n'y a que ça à regarder, quoi.
Jean-Marc.
Le film est pour moi une expérience absolument neutre. Ça ne provoque ni hostilité, ni une quelque forme de plaisir. C'est vraiment rien. Quoi, qu'on l'ait vu ou qu'on l'ait pas vu, c'est à peu près la même chose.
Mais est-ce que tu es sûr que tu l'as vu?
Je crois quand même. Je crois quand même que j'ai passé 1h40.
C'est vrai que ça défie un peu l'acte critique.
Le film se
défie un peu l'acte critique.
Complètement. Il y a vraiment rien à en dire. C'est jamais totalement déplaisant, mais c'est jamais non plus totalement séduisant. C'est vraiment presque rien.
Alors, donc, il fait la une de positif. Hein. Michel, qu'est-ce que tu en penses en deux mots parce qu'on
Je trouve qu'au moment où, à la rentrée de cette année, la comédie à la française a un vent de fraîcheur avec Antoinette au pays des Cévennes, avec Effacer l'historique.
Antoinette dans les Cévennes.
Avec tous ces films, évidemment même le film du Pontel. Là, on retombe vraiment dans la facilité, dans l'absence totale de mise en scène. Alors, il y a des comédiens qui sont pas mal, mais c'est rien. Alors, évidemment, c'est le ticket gagnant. Avec le titre, on pense qu'on va attirer les profs, les élèves et les parents. Ça fait toute la France. Le film ne mérite pas ça.
Parents d'élèves de Noémie Saglio. Allez, on termine avec une réédition, la réédition de la semaine, en version restaurée, bien sûr, du Sixième Sens. Pas celui, je le disais en préambule, de Ned Shyamalan, mais celui de Michael Mann. Produit par Dino De Laurentiis, avec William Peterson, Kim Grest, Brian Cox, et qui date de 1986, rebaptisé Manhunter. C'est la première adaptation avant Le silence des agneaux du roman culte de Thomas Harris, Dragon Rouge, et la première apparition au cinéma d'Hannibal Lecter. Ce criminel de génie, ce psychopathe cannibale, appelé ici Lector, je dis bien Lector, et incarné par Brian Cox, qui a gravement blessé l'agent fédéral William Graham, c'est William Peterson, et qui s'est retiré des affaires, mais un ancien collègue du FBI fait appel à lui pour l'aider à trouver et arrêter un tueur en série, Dragon Rouge, qui assassine des familles lors des nuits de pleine lune. 35 ans après la sortie de ce film, que pensez-vous qu'il en reste? Vous me répondez assez vite, Michel.
C'est un film magnifique. Alors, évidemment, c'est intéressant de le voir 36 ans plus tard. On l'avait vu à sa sortie. Mais on ne s'est pas rendu compte d'abord ce qu'allait devenir Michael Mann, un très grand cinéaste de thriller en particulier. Mais il rompt avec ses deux premiers films qui étaient encore dans une sorte d'esthétique réaliste. Là, on est un peu dans l'abstraction et en même temps dans l'onirisme, avec une froideur dans les décors, dans les éclairages absolument impressionnantes. Il y a un contrôle de la matière absolu. Et puis, cette histoire de flic qui pourchasse ce tueur, c'est un sujet hyper rabattu, mais qui est traité de façon complètement anticonformiste. Donc moi, je pense que c'est vraiment une réédition très importante.
Xavier, à la relecture, si j'ose dire.
Ça a pris un horrible coup de vieux. Ça n'est pas possible de se refader Manhunter en 2020. Mon Dieu, Michel, je te vois, je t'entends et je t'écoute très fidèle à Michael Mann, mais c'est pas possible. Alors, tu retires le nom de Michael Mann au générique, tout le monde se poile. Enfin, c'est pathétique. Il y a des effets de lumière qui ne passent plus là-bas. Il y a une espèce d'interprétation caverneuse parce que tout le monde est très dépressif. Alors, on parle comme ça pendant tout le film. La résolution est consternante. Il est devant un petit écran de contrôle. Il comprend tout ça. Ça tombe bien. Ça fait 1h45, il comprend rien, il reste 20 minutes, Coco, c'est quand tu veux pour t'y mettre. Il n'y a pas du tout ce qui fait l'essence, évidemment, du silence des agneaux, c'est-à-dire une perversion dans le rapport entre un nouvel lecteur et l'enquêteur. Là, c'est quand même un polar à la Deux flics à Miami, sans aucun intérêt, avec des effets de mise en scène et de lumière, mais qui sont hyper datés, et qui datent d'ailleurs de La Forteresse, son film précédent, qu'il avait fait en 83, qui était un film d'horreur. Ouais, c'est horrible à regarder. Non, moi je suis désolé, ça ne passe plus. Il y a rien dans ce film, quoi. À part une espèce d'ersatz de serial killer, de poursuite de serial killer qu'on a vu 2000 fois et qu'on avait déjà vu 2000 fois avant. Non, franchement, non, pas la peine.
Alors entre les deux, Jean-Marc, tu te situes où, toi?
Plus proche de Michel.
Oui, moi,
c'est
sûr.
C'est la troisième.
Michael Mann, oh !
On n'est pas toujours d'accord avec Michel. Là, c'est la troisième fois que je voyais le film et à chaque fois, pour moi, le film monte. Alors, c'est vrai qu'il y a une forme de kitsch années 80. Le film est très 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 daté. Cette lumière très bleue, ces synthés extrêmement en tous sens qui envahissent complètement la bande image. Mais malgré tout, ce kitsch années 80 vieillit plutôt bien. C'est-à-dire que moi, je trouve que notamment la musique est extrêmement envoûtante et ce récit très labyrinthique, ce rythme très très languissant, à chaque fois qu'on le revoit, ça gagne en profondeur et en mystère. Moi, je trouve le film vraiment assez beau.
Eva ?
Alors, je vais faire un peu une synthèse. Oui, il y a un côté années 80 daté. Il faut oublier qu'après, il y a eu Le Seigneur des Anneaux, qui
le est un silence.
Film de, Le Silence des Anneaux, qui après, oui, tout à fait, est un film d'une tension absolue. C'est autre chose. Moi, ce que je trouve vraiment, il y a des choses vraiment très intéressantes. La présence-absence de, en fait, quand, dans les films, on accorde beaucoup d'importance à la personne qu'on recherche. Pendant toute une première partie du film, on a quasiment que le profileur. Et par exemple, les scènes où il regarde la vie des victimes sur des films de famille, il les regarde et en même temps, il y a la mort. C'est des films de vie et en même temps, on sait qu'il y a la mort. Il y a des idées formidables. Les scènes où il va voir le lecteur. Tout est très blanc, cette manière dont ça se situe. Et puis, il est comme, lui-même, il est comme quasiment un zombie, comme un mort-vivant, le profileur. Il est, d'habitude, on va chercher Clint Eastwood, qui est retiré des voitures, vieux profileur, allez, viens, reprends du service. Là, c'est un jeune type, il a 40 ans, mais il a été cassé. Et il est comme un malade qui a peur de retomber dans une addiction qui est d'approcher le mal. Et ça, c'est des belles idées.
J'ai l'impression que tu parles du sujet, mais moi, je l'ai revu aussi comme Xavier, et je trouve que ça avait terriblement
Ça a vieilli, mais
alors,
il y a
plein de rééditions dont on a parlé au masque qui étaient restées incroyables.
Oui, ça a vieilli, mais dans la réalisation, le visage,
la réalisation,
du type,
hein.
Oui, la manière dont il parle à l'assassin, où il essaie d'entrer dans sa tête, la manière dont il est dans la même position de voyeur que lui, mais à travers les écrans, il y a quand même beaucoup d'idées de mise en scène, de cinéma, mais l'ensemble est un peu décevant et l'ensemble a vieilli, je suis d'accord.
Non.
Moi, je pense l'inverse, vraiment. C'est-à-dire que je veux dire que dans le détail, le film a vieilli, mais l'ensemble reste très fort, très troublant.
Oui, moi, c'est l'inverse.
J'aime beaucoup Le Silence des Agneaux, mais c'est l'antithèse du Silence des Agneaux, oui, qui a été réalisé après, naturellement.
Oui, d'accord. Quelques années après.
Un film baroque, flamboyant, et là, c'est un film au contraire.
Allez-y pour le final, on dirait un film de la Hammer avec une espèce de vieille musique gothique sortie de je ne sais où. Ça, vraiment, si vous arrivez à regarder ça sans rire, vraiment, je vous paye une bière. Hein.
Le sixième sens, donc, de Michael Mann, qui est ressorti cette semaine en version restaurée sur tous les écrans. Allez, le temps est venu des conseils, et je sais quel est celui de Michel.
Alors, pour moi, avec Michel-Ange, le grand film de cette émission.
Qui fait réellement la une des positifs.
Oui, qui est vraiment un film immense, qui est City Hall. D'une part, parce qu'évidemment, à 90 ans, Wise Man, c'est son 46e film. C'est une œuvre inouïe de documentariste depuis 67. C'est-à-dire qu'il a couvert pratiquement tous les États-Unis avec ses films mosaïques, où il choisit à chaque fois une communauté, une station de ski, un commissariat de police, une école, etc. Cette fois-ci, c'est la mairie de Boston, ça s'appelle donc City Hall. Et à mon avis, c'est une anticipation sur Trump. C'est-à-dire que ce film est une réponse à Trump à travers, pour la première fois dans le cinéma de Wise Man, un personnage central. D'habitude, c'est une mosaïque, il n'y a pas de héros. Ici, il y a un héros à la Capra ou à la John Ford, qui est le vrai maire de Boston, qui est Walsh, Mark J. Walsh, qui est un démocrate et qui est l'anti-Trump, c'est-à-dire il s'intéresse aux minorités, il s'intéresse aux laissés-pour-compte, il s'intéresse aux hôpitaux, il s'intéresse... Enfin, c'est vraiment l'opposition totale, et c'est un film qui dure 4h30, mais moi je le compare au Chagrin et la Pitié.
– Juste préciser que c'est 4h30.
– 4h30, oui. 4h30, comme le Chagrin et la Pitié, exactement. Et le Chagrin et la Pitié, ça montrait deux Frances. La France collaborationniste et la France résistante. Ce film-ci...
Ah, tu vas jusque-là, toi.
Ce film-ci, c'est uniquement l'Amérique démocratique, pas seulement démocrate, mais démocratique. Et ça répond au précédent film, Monroe via Indiana, qui était un film sur une petite communauté du Middle West qui avait voté Trump à 72% et qui représentait toute l'Amérique conservatrice. Donc on a, avec ces deux films, les deux faces de l'Amérique qui est au bord de la guerre civile.
Mais permets-moi,
l'Amérique est au bord de la guerre civile.
Avec le Chagrin et la Pitié est un tout petit peu excessive.
J'apporte ma voix à Michel Simon. Ce film est formidable parce qu'il montre une démocratie en action. Ce n'est pas le résultat que l'on voit, on voit le processus démocratique. Il en a très bien parlé. Je voudrais ajouter une chose. Il y a à la Fondation Cartier, toute une opération autour du film La Nature, de Pélechian, qui est un Arménien, qui n'avait pas fait de film depuis 25 ans, et qui travaille, là il a travaillé uniquement avec des images
qu'il a trouvées sur Internet. Ça va arriver après la Cinémathèque, je crois.
Exactement.
Hein. À la Fondation Cartier.
À la Fondation Cartier.
Mais après ça va aller à la Cinémathèque.
Voilà, et c'est vraiment très intéressant, parce qu'il a mis des années à faire ça, et c'est sur l'éruption de la nature, la force de la nature, sans un mot de commentaire. C'est du 24 octobre au 27 mars. Encore un mot sur la politique. Je vous rappelle vite que la Cinéthèque, son sujet du mois, c'est les films politiques. Et il y a une sélection d'une dizaine de films qui est intéressante.
Le conseil de Xavier.
Un très beau film italien, Una promessa, de Gianluca e Massimiliano De Serio, qui moi vraiment m'a touché. C'est une famille, un père, une mère et un fils qui vit vraiment dans le quart monde italien. Un jour, la maman va travailler, elle se lève très tôt, à 4h du matin, elle prend le bus pour aller travailler dans une exploitation agricole. Elle n'en reviendra pas et le père et le fils vont se retrouver également dans cette exploitation, exploiter à leur tour. Et je trouve que du social n'est peu à peu quelque chose de pratiquement à la Pinocchio. C'est-à-dire que sans exagérer, la mise en scène va épouser le point de vue de l'enfant, c'est-à-dire subitement l'exploiteur, comme ça va devenir un ogre, un type extrêmement violent, et le film grandit comme ça dans l'imaginaire de l'enfant. C'est vraiment la réconciliation, j'allais dire, du cinéma social italien et de cet art si italien de l'histoire, de la fable, de l'enluminure. Et je trouve le film absolument magnifique et bouleversant et inventif, puisqu'on part sur quelque chose de très concret pour s'aventurer à la fin sur quelque chose un peu plus surréaliste, qui m'a totalement convaincu et emporté.
Una promessa. Le conseil pour finir de Jean-Marc.
Paris Calligramme, qui est un documentaire de Ulrike Oettinger, qui est une cinéaste allemande qui a, je crois, 78 ans, qui était de la génération Fassbinder, Werner Schroeter, et qui a fait des films un peu de punk baroque, et qu'il a fait un film étonnamment sage, si on connaît le reste de son œuvre, qui raconte sa jeunesse à Paris, où elle s'est installée à l'âge de 20 ans en 1962, et où elle est partie en 1969. Elle raconte le Paris des années 60 avec énormément d'images d'archives, et elle traite à la fois la contre-culture, l'ébullition politique, la question de la décolonisation, et on voit comme ça défiler toute la France des années 60 à travers le regard d'une jeune étrangère. C'est un très beau film.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Eva Bétan, Michel Simon, Jean-Marc Lalanne et Xavier Le Herpeur pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir, au Théâtre de l'Alliance Française à la Technique, il y avait, et je les remercie, Christian Laondès, Éric Carrère et Romain Lenoir, pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, ce sera le jeudi 5 novembre. Je vous attends nombreux à partir de 17h30 au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de littérature. À dimanche prochain, sur France Inter, évidemment.